9h26, David Hurtel a été ministre dans le gouvernement libéral. Il a travaillé aussi au Stade olympique, une carrière intéressante. Et il publie un livre, « Journée de ministre », pour nous faire comprendre, nous montrer ce que c'est que d'être à la tête d'un ministère. M. Hurtel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, avant de parler de votre job de ministre, on va parler de vous un peu. Je lisais votre bouquin. Disons que vous faites partie de ceux et celles qui ont eu droit à un privilège un peu doré dès le début de leur vie, fréquentant les grandes écoles.
Ah oui, ça, aucun doute, j'ai été très chanceux. J'ai eu une éducation de première qualité là, dès le tout début de ma jeunesse. Ça, c'est sûr que c'est un grand avantage que malheureusement, pas assez de gens ont.
Et est-ce que je comprends qu'il y avait une certaine pression familiale pour aller jusqu'au bout des études?
Oh que oui. Non, ça, vous avez bien compris. Je crois que je suis pas trop subtil dans le livre, mais en effet, c'est que ce qui venait avec ça, c'était une pression importante, justement, de réussir. Là, ça venait tant de mes grands-parents que de mes parents. C'était clair qu'avec ces privilèges-là, d'avoir accès à des grandes écoles, il y avait aussi une obligation et des attentes là, très élevées.
À quel moment, je dirais, l'actualité générale ou la politique plus particulièrement, ça a commencé à vous intéresser?
Très, très jeune. Je veux dire, c'était un sujet omniprésent dans ma famille. Et dès un jeune âge, moi, je me souviens, 6-7 ans, je veux dire, moi, je suivais ça là, à la télévision. J'étais passionné par ça. Puis en même temps, c'était une façon aussi de pouvoir... Moi, je suis enfant unique, alors... Tu sais, moi, mon enfance, c'était surtout avec les adultes. Quand j'étais pas à l'école ou avec les amis, ben c'était entouré d'adultes. Et puis pour participer à la conversation, pour pouvoir être valorisé, pour avoir un peu d'attention, ben c'était de parler de politique. Puis en même temps, ben on était dans les grandes années là, de débat politique, hein, fin des années 70, début 80, Trudeau, Lévesque et tous les autres, c'était vraiment quelque chose que moi, jeune, ça me fascinait. Moi, j'étais scotché, vous me permettez l'expression, sur la télé, puis je regardais ça, puis moi, ça me fascinait dès un très jeune âge.
Il y a une anecdote assez intéressante, c'est celle où vous racontez une rencontre avec René Lévesque.
Ah oui. Alors ça c'est assez fascinant. Alors c'était autour des années 77-78, M. Lévesque est premier ministre. Et les samedis matins, c'était le matin, bon, on faisait les emplettes un peu en famille, là, on faisait les courses, puis on allait toujours au même endroit. Mon père allait chercher son café toujours au même endroit sur l'avenue Laurier. Et puis on arrive pour rentrer dans l'épicerie, puis là j'aperçois de l'autre sens du trottoir quelqu'un qui arrive. Puis moi, justement, parce que je regardais beaucoup, je regardais déjà les débats, les nouvelles, tout ça, mais mon Dieu, c'est j'avais quoi, 6-7 ans? Je me suis dit, mon Dieu, c'est quelqu'un, ça. Et là, j'étais comme nerveux. Puis là, c'est comme si on arrivait, mon père et moi, on arrivait en même temps que lui, que cette personne-là, devant la porte d'épicerie. Puis là, c'est M. Lévesque. Et là, il regarde mon père, puis il dit, « Salut, Yann. » Et là, j'étais figé, j'en revenais pas. Là, je regarde mon père, la bouche ouverte, les yeux, là, grand. Là, j'étais comme, j'en revenais pas. Cet homme-là, le premier ministre du Québec, René Lévesque, que j'idolisais déjà, que je voyais à la télévision tous les jours, il saluait mon père. J'étais complètement sidéré, j'en revenais pas.
Il connaissait dans quel contexte?
Ben mon père était avocat, était jeune avocat, il y a des années, puis il avait croisé M. Lévesque dans le contexte là, de toute la fondation du Parti québécois. Il avait été impliqué, là, je dis pas qu'il avait un énorme rôle, là, mais il était comme impliqué là, à la fin des années 60 là, dans la fondation du Parti québécois. Puis il était un avocat aussi, il travaillait à Hydro-Québec, et puis il avait travaillé sur des dossiers importants, puis il travaillait encore sur des dossiers importants au Québec. Fait qu'il avait croisé M. Lévesque.
Ce qui est intéressant dans le livre, c'est l'aspect de ces rencontres que vous avez, parce que moi, je connais des gens qui sont libérales pratiquement à la naissance, puis qui n'ont jamais dérogé. Vous parlez de Bernard Landry avec beaucoup d'éloges. Y a un côté non partisan jusqu'à votre arrivée au Parti libéral.
Ben oui, c'est parce que moi j'ai vécu, il y a beaucoup de chouettes Québécoises et Québécois comme ça. Moi, j'étais dans une famille, du côté de mon grand-père, c'était des rouges, tu sais, puis comme vous le dites, on était rouge ou bleu, au Québec, puis ça, on changeait pas, mais en même temps, j'étais exposé aussi à beaucoup d'idées du Parti québécois, puis la souveraineté, puis c'était les grandes années là, du PQ, là, avec les gouvernements de René Lévesque, et c'était quand même des idées passionnantes, et c'était des débats passionnants, et pour un enfant, c'était pas évident là, de dire, je suis tout l'un ou tout l'autre, puis j'étais exposé, puis j'étudiais, puis j'analysais les deux. C'était deux personnages, tu sais, Trudeau d'un côté, l'évêque de l'autre, c'était vraiment fort comme passion, comme débat, mais en même temps, quand j'ai commencé à m'impliquer à la commission jeunesse, c'était la commission jeunesse du Parti libéral, mais et M. Bourassa, qui était un autre homme que j'admirais beaucoup, après ça, arrive l'échec du Lac-Meach, la célèbre phrase de M. Bourassa suite à l'échec, que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec sera désormais libre de ses choix et d'assumer son destin. Et cette phrase-là, moi, m'a galvanisé. Il m'a dit, pas le choix. Faut qu'on passe de côté. Et puis, à ce moment-là, même, je me souviens, M. Parizeau, Jacques Parizeau, qui dit la phrase aussi, vous êtes mon premier ministre. Puis, on se demandait vraiment à ce moment-là, vous vous souviendrez, si M. Bourassa n'allait pas lui-même déclarer l'indépendance du Québec. Et moi, de ce côté-là, moi, j'ai basculé. Moi, je suis devenu souverainiste. Et ça m'a mené, ultimement, à travailler au cabinet de M. Landry lorsqu'il a été premier ministre. Mais après ça, après cette expérience-là, je me suis retiré de la politique. Puis quand la politique est revenue vers moi en 2013, c'était à l'époque la Charte des valeurs du Parti québécois. Puis là pour moi, c'était quelque chose, moi, que je voyais pas comme une option viable pour le développement du Québec. Alors, je suis revenu au Parti libéral à ce moment-là.
Notre invité ce matin, David Hurtel, le titre du livre « Journée de ministre », parlons-en des pouvoirs, puis des journées, puis de l'agenda d'un ministre. Il y a deux, trois trucs sur lesquels j'ai accroché en lisant le bouquin. Un, vous dites « le ministre, pas lui qui gère le ministère ».
Oh que non. Faut bien comprendre que dans la structure gouvernementale, un ministre, c'est un peu un locataire. Hein? Ça va être là peut-être un an, un an et demi, deux ans. Moi, j'ai été un de ceux qui a duré plus longtemps à l'environnement. J'étais là presque trois ans et demi. Mais regardez, à l'immigration, j'ai été là qu'un an parce que le mandat s'est terminé. La machine, elle est permanente et les employés du ministère, que ce soit les directions, que ce soit tous les fonctionnaires, leur patron, leur patronne, c'est le ou la sous-ministre. Et dans notre système, le sous-ministre, son patron à lui, c'est le secrétaire général, c'est pas le ministre. Le ministre est un client. Et le secrétaire général du gouvernement, vous le savez, c'est comme le sous-ministre du premier ministre. Et son patron, c'est le premier ministre. Alors, il y a comme une espèce de structure particulière où on doit développer une relation de confiance et de travail avec un sous-ministre qui n'est pas toujours nommé par le ministre. Même rarement, le ministre est-il véritablement consulté dans le choix d'un sous-ministre. Et ce sous-ministre-là, sa job fondamentale, c'est de diriger le ministère, mais aussi son patron, c'est le secrétaire général. C'est jamais le ministre. Et le ministre est comme un client. Alors, il y a comme une espèce de dualité, là, puis un rapport qui se développe avec le sous-ministre. Mais il faut bien comprendre qu'un ministre n'est pas véritablement patron et aussi doit composer avec une foule d'autres facteurs avant d'arriver à pouvoir faire avancer les choses.
OK, mais est-ce que ça veut dire qu'une machine peut ralentir, bloquer un projet du ministre?
Absolument.
Est-ce qu'elle le fait?
ça arrive. ça arrive, et des fois, ça peut venir d'autres ministères aussi. C'est pas nécessairement son propre ministère, parce que quand on développe, que ce soit une politique, un projet de loi, un projet de règlement, bien, c'est très, très rare que ces mesures-là n'affectent que son propre ministère qu'on dirige. Ça va affecter d'autres ministères. Souvent, par exemple, à l'environnement, ça va nécessairement toucher aux affaires municipales, au portefeuille économique, à plusieurs différents aspects gouvernementaux. Et donc, les autres ministères et les autres sous-ministres vont être appelés à commenter. Ils vont parler aussi à notre sous-ministre. Ils vont parler au secrétaire général. Puis ces ministres-là également vont parler au premier ministre, vont venir me parler à moi. Ils vont mettre la pression. Il y a différents comités, différentes étapes. Et il faut bien comprendre que tout ça entre dans le fonctionnement et dans l'analyse et le développement de mesures. Et des fois, c'est ralenti. Des fois, c'est bloqué. Des fois, c'est modifié substantiellement. Mais le ministre n'a pas tous les pouvoirs. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Composé avec tous ces éléments-là.
L'autre question qui est soulevée dans le livre, puis dans le fond, ça s'adresse peut-être à ceux et celles qui pensent faire de la politique. Vous dites, c'est 24 heures, c'est 7 jours par semaine. Quand vous sortez dans un espace public, un restaurant ou autre, il ne faut jamais perdre de vue que vous êtes ministre.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est de la minute qu'on est nommé ministre, ça part, là. Puis là, on doit comprendre, tu sais, permettez encore l'expression en anglais, mais on est toujours « on ». C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps mort. Les médias, ça commence très tôt le matin. Je veux dire, quand on se lève, c'est un peu comme vous, vous faites votre revue de presse, mais nous aussi. Et on l'a fait très tôt également. Ensuite, le cycle médiatique part avec les premières nouvelles du matin. Ce que les radios, ce que les commentateurs, ce que les animateurs comme vous nous disent à la radio, les entrevues. Des fois, j'ai fait plusieurs entrevues avec vous à 7h15, 7h35. Ouais. Bon, ben ces entrevues-là, faut les préparer. Puis des fois, quand on se réveille le matin, là, que ce soit 4h30, 5h, là, des fois, là, on n'est pas nécessairement complètement au courant de la nouvelle, là. Puis il faut s'informer, puis il faut être prêt, parce que vous allez avoir vos questions à 7h35. Alors, le fait est, c'est que ça roule tout le temps. Puis les fins de semaine, des fois, il y a des moments, il y a des crises, il y a des incidents. Les médias, ça roule 24-7. Les réseaux sociaux, ça roule 24-7. Il y a des activités, que ce soit dans le comté, où on est en région, où on est à l'international, on est ailleurs au Canada. Ça continue tout le temps. Ça n'arrête jamais. On est même en vacances, même pendant les fêtes.
Là, vous racontez dans le livre que vous êtes un soir à un restaurant avec une amie. Et là, vous prenez du bon temps. Deux bouteilles de vin.
Oui, c'est ça. Oui, je parle de ça. Alors, c'est un vendredi soir, et puis c'est après une semaine de travail. Puis là, j'étais avec ma conjointe à cette époque-là. Puis on décide d'aller manger dans un restaurant. On s'assoit au bar. On commence, je ne sais plus, là, il était peut-être 5h30, 6h. Puis on commence avec une bouteille de vin. Puis là, on reste pour souper. Puis tu sais, bon, la soirée va peut-être s'échelonner, je sais pas, jusqu'à vers 22h. On se paye un bon souper, puis on décide d'avoir du fun. Fait que on boit à nous deux, peut-être deux bouteilles de vin. Mais tu sais, bon, on est assis au bar, il n'y a pas d'incident, on fait pas de bruit, il n'y a rien, bon. Et là, c'était la veille de la rentrée parlementaire à Québec, et vous faisiez toujours avec le regretté Jean Lapierre le matin, au moment de la rentrée parlementaire, le mardi suivant, vous faisiez toujours, bon, avec M. Lapierre, vous faisiez un peu les prévisions là, pour la session. Puis, Jean Lapierre vous disait, bon, quel ministre il avait sous surveillance. Puis là, il vous dit, bon, il y a Gaétan Barrette à cause de ci, ça. Il y a Jacques Daou à cause de ci, ça. Là, un autre regretté. Et là, il dit mon nom. Il dit David Hertel. Puis là, vous dites, pourquoi? Ah, oh, je l'ai à l'œil, lui. Tu sais, comme vous vous souvenez, sa façon de dire les choses.
Oh oui.
Il dit, il paraît que lui, il aime ça un peu prendre un coup. Là, vous avez dit, ah bon? Mais là, évidemment, il faut bien comprendre que vous et votre chronique, avec la chronique de Jean Lapierre, c'était écouté, puis c'est encore avec Bernard Drinville, quelque chose qui est très écouté dans les milieux politiques. Alors, tout de suite, le téléphone sonne, tout le monde me demande ben, qu'est-ce qui se passe. Puis là, au bureau du premier ministre, le directeur des communications dit ben là, c'est de quoi il parle, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, finalement, le directeur des communications du premier ministre a parlé durant l'avant-midi à Jean Lapierre, puis Jean Lapierre a expliqué « Oh, il paraît que vendredi dernier, il était à un restaurant, puis il a pris un coup. » Bon, alors voilà. Et là, ça a été comme... Puis ça, c'était tôt dans mon mandat, puis là, tu sais, j'ai comme compris que, bon, faut faire attention, parce qu'il y a quelqu'un qui avait vu, qui avait trouvé... qu'à son goût, j'avais pris peut-être un peu trop de vin ce soir-là, puis il avait décidé d'en parler à
Mais est-ce
à
que Lapierre. Est-ce qu'il y a beaucoup de ragots qui vous ont entouré, beaucoup de rumeurs à partir desquelles vous avez dû, à un moment donné, dire au PM, à son chef de cabinet, écoute, là, c'est pas vrai cette affaire-là, ça spin, mais c'est pas vrai.
Ça arrive des fois. Bon, il y a énormément de ragots sur tout le monde. Tout le monde parle. Tu sais, à Québec, tout le monde parle de tout le monde, puis il y a des rumeurs farfelues. Il y a des gens qui essayent de générer des rumeurs pour essayer justement de faire trébucher des personnages politiques. Mais c'est rare que ça va au niveau de bon, faut en parler avec le bureau du premier ministre ou même au premier ministre. J'en ai jamais parlé au premier ministre. Mais tu sais,
Mais donnez-moi des exemples de rumeurs. Je veux pas les noms, là, mais le genre de potins puis de rumeurs qui pouvaient circuler.
Ben les potins, c'est fascinant. C'est que des fois, on va aller souper quelque part sur Grande Allée à Québec. Hop, on a une relation intime avec cette personne-là. Bang, la rumeur part.
Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Sur rien.
On laisse courir le bruit
parce que dans ce contexte-là, M. Arcand, des fois, c'est la réaction qui attire plus d'attention que la rumeur. Et donc, justement, faut laisser passer, puis tu sais, comprendre que ça t'affecte pas, puis que même si c'est, des fois ça affecte, parce que c'est quelque chose, je veux pas, qui fait partie du milieu, mais c'est la meilleure façon, c'est d'ignorer, puis de se bâtir cette carapace-là, puis qui est pas toujours évidente à maintenir.
Merci d'avoir pris le temps ce matin. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Au revoir. David Hurtel, publié chez VLB Éditeur, là, journée de ministre. Je peux donner le sujet de Tribune tout de suite. On reprend le même sujet qu'hier. On a eu des problèmes avec les circuits téléphoniques. Le gouvernement, donc, vous l'avez entendu, demande aux Québécois de respecter les consignes. Êtes-vous convaincu depuis les derniers jours qu'il faut faire ça pour éviter que ça soit plus sérieux? Est-ce que le gouvernement a réussi à vous convaincre avec ses arguments, avec les faits qu'il a présentés ou pas? 514-790-9850, 514-790-9850. Êtes-vous convaincu, est-ce que l'État vous a convaincu de respecter les consignes de santé publique? 790-9850.